Georges Icoud, le suicide par amour. Il était arrivé à Marcel Gentrix, le dilettante, l'une des très rares fois qu'il eût accepté à dîner, car il se trouvait mal à la solidité des présentations, des amabilités de commande et des visages oiseux, de se rencontrer avec un gentleman anglais nommé Sir Lawrence Frank Whittow. Le village nébuleux et énigmatique de cet étranger avait requis son attention au même titre que le piquet tout objet rare, médaille antique ou musique exhumée. Sans deviner la nature de la hantise ou de la possession dont souffrait Macuto, le faux misanthrope devinait en lui un de ces orgueilleux humanitaires, un de ces exceptionnels qui se sont repliés sur eux-mêmes et qui se consument aux passions qu'ils n'ont pu communiquer comme le feu purificateur à une élite de mortels. Aux yeux du monde extérieur, Sir Lawrence représentait un des trois ou quatre contemporains qui l'ont pu appliquer cette épithète puits de savoir et qui eussent été au Moyen-Âge, au temps de Dr. Faust. Une série de formidables découvertes dans le domaine des sciences naturelles l'avait auréolé de gloire et presque de terreur. Il s'attachait à cet homme pâle et fluet, au parler sourd et grave, quelque chose du prestige qui revêtait les sorciers et les thaumaturges, et quelque merveilleuse et même bouleversante que fussent ses douleurs découvertes. Les milieux savants attendaient de son génie des conquêtes plus miraculeuses encore. À leur avis, leur illustre collègue en savait plus long qu'il ne voulait le dire et le publier. N'eût-il pas même été nimbé de prestige que sa physionomie eût écarté les familiers des indiscrets. Âgé de 30 ans, par moment, son visage en accusait 18 et d'autres fois 50. Pour définir l'impression que lui avait causé le masque caractéristique du baronnet, Marcel n'avait pas trouvé mieux que de comparer ce masque à un ciel caniculaire pendant une de ces journées de chaos météorologique où des orages sinistres alternent avec des ardeurs trop ensoleillées. Sir Lawrence avait des cheveux très noirs, la barbiche et la moustache peu garnies, des lèvres minces et légèrement sardoniques, mais remarquable avant tout autre détail de sa physionomie, des yeux extraordinairement bleus, des yeux lucides et impérieux de magnétiseur, avec par intervalle ce quelque chose de fuyant et d'oblique que les Napolitains constatent chez les Jettatori. Marcel Gentrix m'affirma souvent au temps de ses premiers rapports avec le célèbre étranger que tout le personnage lui semblait éclairé par une lumière intérieure, étrangement lunaire et sidérale, comme des idées qui se mettraient à luire comme un fluide psychique se révélant au sens visuel. Et Marcel ajoutait qu'un certain jour, critique et émotionnel de cette concentration de rayons moraux était-elle en Sir Lawrence, que les objets autour de lui paraissaient s'estomper et s'amortir, se noyer en crépuscule. Pour me servir de la pittoresque expression de mon ami, c'était alors comme si le soleil se couchait en cet homme. À la surprise de tous, Sir Lawrence Frank Whittow honora Marcel de fréquentes visites. On plaisanta même, pour autant qu'on osa plaisanter le savant anglais, l'amitié subite de ces deux taciturnes. D'abord, il fut surtout question entre eux de lois et des phénomènes de la physique. Et des expériences établies et contrôlées, ils se lancèrent dans les champs de l'hypothèse, des inductions et des probabilités. Sir Lawrence était, à ce qu'il déclara lui-même à Gentrix, un positiviste mystique, c'est-à-dire qu'il croyait au merveilleux tout en niant le surnaturel. Rien ne lui paraissait impossible ou irréalisable. Et c'était, prétendait-il, uniquement à cause de notre vie matérielle, niaise, outrageusement vénale et cupide, gaspillée en des intérêts mesquins, que nous avions perdu beaucoup les secrets possédés autrefois par les mages. Si les prodiges ne s'accomplissaient plus, c'était pour nous punir de notre indignité. précisément à cause de sa foi en la toute-puissance de l'âme humaine, pourvu que cette âme fût dégagée des ignominies qui l'obscurcissent et l'étouffent, Frank Whittaker se montrait impitoyable pour les imposteurs et les charlatans, bien plus redoutable et plus néfaste que les sceptiques et les voltairiens ricanant à propos de tout. Ceci donnera une idée des convictions audacieuses du savant. Il estimait possible la génération spontanée et prédisait qu'un jour la puissance créatrice de l'homme ne connaîtrait point de limite et que nos descendants posséderaient toutes les forces dont les esprits superstitieux enrichissent leur dieu ou leur diable. Les premiers temps, Marcel Jartrix éprouva quelque malaise devant la sécheresse, la logique, la raison rigoureuse et aveuglante de Sir Frank. Il comparait son ami à un astronome qui ne ferait que mathématicien et pas un tantinet poète. Malgré les progrès de leur liaison, Marcel s'étonnait aussi de trouver Sir Lawrence hermétiquement fermé sur tout ce qui touchait aux sentiments, au côté amatif de son individu. Avait-il aimé ? Ce n'était pourtant point le travail et les préoccupations du savant qui lui modelait un masque souvent si volcanique, un masque de lave refroidie, ou qui répandait, à d'autres instants, sur ce même visage, la douceur navrante et la radieuse détresse d'un jeune martyr. Cet homme, supérieur par l'intelligence, devait être immense aussi par la bonté. Jartrix le devinait singulièrement affectueux, mais chaque fois qu'il tentait d'aborder les sujets passionnels, l'anglais détournait aussitôt la conversation et accompagnait sa parole nette et incisive d'un regard dépouillé de toute sympathie. Comme de juste, la curiosité de Marcel s'accroissait en raison même de la pénétrabilité de son compagnon. À cause de la prodigieuse valeur intellectuelle du personnage, Jartrix se disait que pour souffrir et pour se taire aussi, sa souffrance devait être celle qui eût perdu, ruiné, anéanti, tout individu moins solidement trempé. Les meilleures causeries, ils les eurent en se promenant dans la banlieue, où, bon marcheur, l'anglais entraînait fréquemment son camarade. Le temps et la saison favorisaient ses courses à travers les paysages de transition entre la campagne et la ville. La nature était prise du premier frisson de la fièvre automnale. Les feuillages se dégradaient en coloration sublime de regret et de nostalgie, aussi opulente que le deuil du jour à son déclin. Prés et bosquets contractaient ces nuances de masure d'indigent et de défroque de pouilleux, cette patine fauve et savoureuse de la plèbe, à laquelle avait insulté depuis le printemps l'éclat parvenu de la végétation trop verte. L'époque et le milieu s'harmonisaient et, pour me servir de la suggestive inversion de Sir Frank Whittaker, nos amis se promenaient dans un paysage d'équinoxe et par une température faubourienne. Ces mots furent prononcés à certaine heure crépusculaire où la navrante ambiance avait exercé une impression assez inattendue sur Sir Lawrence. À la surprise croissante de Marcel Jartrix, le savant délaissait ses discours habituels pour se livrer avec une sorte d'enthousiasme à la contemplation des scènes et des personnages qui les entouraient. Une musique de foire s'élevait dans le lointain, au bout de la vaste plaine, croisée de quelques fossés stagnants et d'eau gibbeuse, où des moutons à toison violacé par le couchant cuivreux paissait une herbe boueuse et jaunissante. Oui, une musique de foire s'élevait, canaille et toute méridionale, là-bas, tout là-bas, derrière ces palissandes mal goudronnées que dépassaient des phares, des minarets, des campaniles, des coupoles, des architectures de carton-pâte, découpant sur la lourde et poignante mélancolie de la vesprée flamande la silhouette des principaux monuments de Venise. Et pour ajouter à la brutalité de l'anachronisme, sous l'horizon gris et pourpré, aux farouches éclats métalliques, ces fantômes, ces larves de palais et de temples orientaux se drapèrent dans une lumière électrique blanche et crue, aussi macabre qu'un suaire. Oh, ces chants de gondoliers, ces crinerines de mandolinistes, dans le crépuscule brabançon, dans cette pastorale de banlieue, il y avait à la fois quelque chose d'hallucinant et de burlesque dans cette improvisation du midi sur le lourd terroir du Nord. Elle tenait de la parodie, mais aussi du mirage. En écoutant ces sérénades, on aurait eu à la fois envie de rire et de pleurer. Les deux amis s'étaient arrêtés au bord du talus, dévalant vers la plaine, où non loin paissaient les moutons et, très loin, carnavalait une kermesse vénitienne. Sir Lawrence prit Marcel par le bras. « Oh, poète aimant, balbutia-t-il d'un ton pathétique, savoure l'artificiel de cette irruption d'une pseudo-ville des Doges dans ton village à Bourgmestre. Ne te moque point trop de ce viol ridicule, de la contrée grave et forte en chair par ce turbulent battelage. Non, tu goûteras bientôt le charme de cette mauvaise rencontre. Il résultera je ne sais quel magnétisme et quelle électricité de cette collision des natures incompatibles. Quelque chose comme un long baiser que se donneraient deux ennemis instimes. La dissonance n'est qu'apparente. Crois-moi, les proverbes ne radotent pas toujours, oui, les extrêmes sont faits pour se toucher. Un présage m'avertit que tu en feras bientôt une expérience décisive. N'aimes-tu pas mieux ton lourd et copieux terroir depuis que ces cabotins l'agacent et le pic de leurs arpèges et de leurs pizzicatis? Ce fond ricaneur du tableau accentue la mélancolie extatique, la solennité du premier plan. Respecte cette invention saugrenue et applique-toi à en dégager le symbole. Ce caprice forain te résume toute notre vie, où les chimères, souvent funambulesques, s'efforcent d'étouffer et d'éhantir les impérieuses et pesantes réalités. Oui, tu m'étonnes de t'entendre parler ainsi. Bien, apprends que comme toi, j'aime et je suis poète. Comme toi, j'ai souffert l'amour et j'ai pleuré et chanté, pleuré du sang et chanté des sanglots, ainsi que pleure, saigne, chante et ricane cette nuit vénitienne dans la léthargie de ton dolent pays. Puis, à force de m'être leurré de fantasmagorie, d'avoir trop magnifié et exalté les pauvres êtres prosaïques, souvent indignes que mon cœur élisait pour ses fétiches adorés, je n'ai plus aimé que le rêve, c'est-à-dire qu'à présent mon imagination crée de toutes pièces ce que j'aime. Et ici, mon cher Marcel, je vous ferai remarquer que je parle tant au propre qu'au figuré. Le savant exécute la fantaisie du poète. Oui, je crée ce que j'aime, et il ne dépendra que de toi de m'imiter. La voix musicale et charmeresse de Sir Lawrence fit encore plus insidieuse et s'estompa d'inflexion aussi morbide que l'agonie des toisons blanches au sein du brouillard. Sa pâleur évoquait celle de l'hostie dans l'ostensoir. Il resplendissait comme si Dieu se levait en lui. Écoute-moi bien. L'heure se prête à mes confidences et ce crispant décor de la plaine atrabilaire, lutiné par des pitres exotiques, correspond même assez providentiellement à l'expérience que nous entreprendrons tout à l'heure. J'ai surpris le secret de ta mélancolie. Tu souffres de l'insupportable antinomie entre le vœu de ton être et celui de la masse qui nous régente. Mais tu souffres plus encore, peut-être, d'un immense besoin d'éternelle jeunesse. Sans cesse, la nature implacable intervient pour te dire ton rôle éphémère. Un jour, cette aveugle et ingrate nature te sonnera le départ, alors que tu es, avec moi, le seul être qui la sente, qui l'admire, et qu'il aime d'une éperdue affection panthéiste, comme elle devrait être sentie, admirée et adorée de tous. Tu te désoles à cause de notre vie passagère, pauvre poète. J'ajouterai que l'injustice de tes chers mais stupides semblables augmente ta douleur chronique, parce que tu ne te confines pas dans leur culte de commande et dans leurs adorations permises, ils t'accusent, toi, le religieux jusqu'au fanatisme, de sacrilège et d'impiété. Oh, vivre, largement vivre, oh, vivre toute la vie, vivre en communion totale avec la nature. Je dois te dire, en toute franchise, que les hommes normaux, s'ils lisaient comme moi dans ton cœur, te traiteraient de fou. Parbleu, tout grand savant qu'ils m'ont proclamé, ils m'enfermeraient s'ils se doutaient seulement de ma capitale découverte, de celle que je vais te révéler. Ton hyperesthésie te rapproche de l'état que la crédulité attribuait aux dieux. Oui, ton état est maladif, mais quelle maladie sublime! Celle qui nous permet de nous unir à tout ce qui compose nos délices. Nos imaginations confinent au transport de la folie, te diront les moralistes et les symétriques austères. En les prenant au mot, qu'y aurait-il là de si alarmant pour nous? Avec la folie, n'est-ce pas l'au-delà qui commence? Pour employer une expression de mon métier de savant, la folie n'est-elle pas l'éclipse, l'évasion de l'âme, tellement impatiente qu'au moment de s'en aller, elle n'a pas même pris le temps d'éteindre le corps comme le chimiste le fourneau, et le cadavre survit à la pensée. Ah, j'ai pénétré ton être indifférent, ta monstruosité sublime. Exalte, je t'apporte la consolation, le soulagement, et le jour où tu voudras, l'oubli. J'avais étudié la plupart des fluides, mais il fallait un sujet tel que toi pour me montrer le fluide qui les réunit tous, ce fluide de sympathie absolue qui te met en contact permanent avec l'éternité et l'infini. Sans que tu t'en doutais, j'ai observé et étudié les progrès de ta précieuse maladie. Le moment est venu d'accomplir sur toi l'opération qui couronnera mes découvertes et qui t'apportera le baume, la volupté, le soulagement. En un éclair à la fois plus suave et plus atroce que le spasme, toi, la bonté et l'amour même, tu vas pouvoir réunir les tronçons de ton idéal. Persuade-toi que ton corps actuel n'est qu'une apparence. Ose te contempler dans l'infaillible miroir, dans le reflet de ta vie mentale, dans la magnificence et la frénésie de ton imagination. Tiens, regarde. Et de la main, Sir Lawrence Whitehall lui montra le petit berger, seul visible, émergeant de la buée paludéenne, où se noyaient depuis longtemps les formes houleuses de son troupeau. Il faisait extraordinairement tiède et doux, un peu humide, comme si le dernier sourire de l'été s'humectait de discrètes larmes. L'air se tendait de filandres chatouilleurs. C'était le temps propice aux confidences, aux réconciliations et aussi aux adieux. Il y avait dans cette poignante tiédeur septembrale, comme l'onguent, les charpies et les baumes qu'on applique sur les blessures du cœur après les opérations suprêmes. Plus impressionnable encore que d'ordinaire, Marcel ressentait jusqu'au malaise cette atmosphère, cette lumière, cette température d'hôpital psychique. Au bêlement des ouailles que le brouillard semblait multiplier, répondait toujours au loin la musique foraine aussi criarde que la peinturlure du panorama et que les feux de Bengale, trouvant parfois la blanche fauteur fantomale de cette ville en effigie. Marcel, obéissant à Sir Lawrence, regardait le petit berger. D'abord indifférent, ses yeux se remplirent d'extase. Sublime vision! Elle incarnait les préférences, les vœux, les désirs du poète. Un jour, Marcel avait souhaité ce costume de velours mordoré. Une autre fois, il enviait à un manœuvre maçon le port crâne et avantageux de sa méchante casquette marine. Tout ce que Marcel avait aimé en secret, sans espoir, tout ce qui chatouillait et pinçait ses fibres amatives, caresses de l'imagination, nostalgie lancinante, tout ce qui lui avait étreint doucement le cœur en précipitant les battements, se concentrait en ce jeune gars. Il se campait dans une attitude que Marcel n'avait rencontrée qu'une seule et mémorable fois chez un apprenti au repos. L'adolescent possédait ses yeux divins, sous la caresse desquels le poète eût affronté les pires supplices, cette bouche friande dont les baisers aviseraient encore l'incarnat, un corps nerveux modelé comme par une gageure de l'amour et de la force, et dont le velours des vêtements flattait au lieu de dissimuler les proportions harmonieuses et les reliefs vigoureux. Éclairé dans une dernière flambée de soleil rouge, son isolement, l'immensité du décor, la moquerie même des profanations lointaines, lui prêtaient une splendeur de plus. Aux yeux de Marcel, affolé et râlant d'idolâtrie, il réalisait le plus bel être humain, l'idéal de notre enveloppe charnelle, le chef-d'œuvre d'un créateur qui eût éclairé le corps d'Antinoüs par l'âme de Parsifal. Marcel s'approchait pour s'agenouiller devant lui et panteler sous ses regards et son souffle céleste, mais au moment de l'aborder, il s'aperçut que les détails de ce délicieux ensemble de perfection plastique se dégrageaient ou se vulgarisaient et qu'il ne restait plus à deux pas de lui qu'un assez galbeux petit pastoureau qui le dévisageait d'un air à la fois cajoleur et effronté. Il recula et se tournant vers Sir Lawrence, il s'écria d'un ton déchirant « Oh, mais pourquoi ne m'as-tu point fait mourir avec ce fantôme ? Il m'eût été un délice sans pareil de m'évanouir et de me dissiper en lui. » Le baronnet lui prit la main. « Il ne s'est pas évanoui pour toujours. Pour le revoir, il te suffira de le conjurer. Mais ce n'est pas un spectre ou une ombre. C'est ta propre substance, c'est toi-même. En un instant, tu prenais ta revanche de la nature créatrice, tu revêtais la forme saillante à son esprit. Eh bien, tu te retrouveras à cette image par la puissance de l'amour, chaque fois que, dans tes sentiments pour le prochain, tu ne considéreras à voir que ses qualités et que tu t'isoleras de ses défauts. Et tu ne seras jamais plus accompli, plus irréprochable que le jour où tu parviendras à découvrir, en la personne de ton plus mortel ennemi, un mérite caché, une vertu que ta haine refusait toujours de lui accorder. » En te représentant avec obstination quelques traits louables de ton ennemi, ne fût-ce que le moindre plaisir qu'il t'aura procuré, peu à peu l'être haïssable que tu évoquais acquerra la beauté dont tu pars tes visions préférées. Il se transfigurera, il revêtira des formes plus sublimes que celles dont l'absence vient de t'inspirer le dégoût de la vie. Il te séduira, pétri dans le marbre des statues grecques, dans la chair des éphèbes favoris des Césars et des sages. Il surgira dans les effluves des parfums et les ondes des harmonies auxquelles s'attachent tes plus intimes souvenirs. Lui-même possédera la voix pathétique de tes obsessions musicales. La couleur de ses vêtements sera puisée à la palette de tes peintres aimés, mieux empruntée aux haillons des libres voyous qui lui servirent d'avant-coureur. L'horizon qui l'encadrera reproduira le ciel de tes préférences. Ses allures et ses gestes s'inspireront de tes grands souvenirs gymniques, et dans son haleine tu respireras les printemps et les automnes, la fleur et le fruit de tes rencontres les plus détestables. Il est possible qu'une flamme meurtrière persiste à briller dans son regard. Encore un effort. Obstine-toi, appelle à toi toute la force du pardon. et à ses incantations toutes puissantes, je te le jure, s'éteindra peu à peu cette lueur incendiaire pour faire place à la rosée touchante des meilleures larmes que l'on pleurera sur toi. Et quand tu verras ton ennemi féroce transformé en cette créature idéale, en ce prodige de beauté et de bonté, un indicible bien-être au cœur t'avertira de mourir au plus vite, par crainte de survivre à ce miracle, à ce triomphe de la charité. Et alors, ô très cher rêveur, il suffira à tes lèvres de s'oublier sur les siennes, en un baiser si profond que ton âme y sera noyée. Depuis longtemps, le petit berger et ses ouailles s'étaient enfoncés dans les ténèbres, laissant le champ libre aux mauvais garçons, rôdeurs ou marlous, et là-bas, la cité artificielle continuait à éclater en barcaroles, en pétards et en illuminations crues, toutes blanches aux confins de la vaste plaine ambiguë et complice. Un peu de lune grimaçait dans le ciel. Et plus que tout à l'heure, cette détresse de la plaine diffamée et cette gaieté de la ville postiche distillaient une énervante ironie. Peu à peu, cependant, la cité de Pacotille sembla se concilier la campagne bourrue. Un rapprochement s'établissait. Les ennemis s'embrassent, prononça Sir Lawrence d'une voix dont l'accent le fit frissonner lui-même. Reportant les yeux sur son ami Marcel, le baronnet s'aperçut que celui-ci, devenu très pâle, faisait le geste d'étreindre quelqu'un au passage. Puis il le vit défaillir et choir dans la rosée. Marcel venait d'expirer avec un sourire de béatitude, un sourire plus triste que le dernier baiser de la lumière électrique à cette campagne borgne.